13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravie de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. L'actualité cette semaine, c'est l'inquiétude qui grandit à Blanquefort autour du sort de l'usine Ford, avec des salariés pas rassurés par le seul repreneur en course qu'ils ont rencontré hier. Stéphane Place, qui suit le dossier depuis des mois pour Europe 1, nous dira si on est face à la chronique d'une catastrophe sociale annoncée. La lutte contre l'homophobie dès le collège, reportage édifiant de Virginie Salmen dans une classe de 4e à Avignon. Nous irons, je vous le disais, au Venezuela à quelques heures de la grande manifestation pour réclamer des élections libres. Chloé Triomphe nous racontera l'ambiance très lourde au procès dit de l'affaire du viol du 36 avec deux policiers condamnés à 7 ans de prison. Elle nous dira qu'elle a rarement vécu verdict aussi incertain. Martin Fenot nous racontera comment le théâtre sert à lutter contre la radicalisation. Et puis, plongez avec Gian Chiluda dans l'exposition qui vous transporte dans l'URSS des années 30 et qui fait polémique. Son nom, Dao. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1. Tout terrain, Fabienne Lemoyle.
Et pour commencer Tout terrain, nous partons en Gironde où l'inquiétude grandit autour du sort de l'usine Ford de Blanquefort. À la clé, 850 emplois. Hier encore, les syndicats étaient à Strasbourg pour rencontrer la seule entreprise candidate pour reprendre leur usine. Ils sont sortis inquiets. Alors va-t-on vers la chronique d'une catastrophe sociale annoncée avec la fermeture du site en août prochain ou vers une issue plus heureuse comme à Ascoval dans le Nord récemment? On va essayer de vous donner les clés de ce qui se joue autour de cette usine implantée depuis 1972, c'est-à-dire presque 50 ans en Gironde. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Vous êtes correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Cela fait des mois que vous nous faites vivre ce feuilleton qui rappelle celui de Florange, où je le disais à l'instant d'Ascoval. La particularité de cette situation, c'est qu'il y a donc une société qui a fait une offre de reprise de l'usine de Blanquefort. Ford a refusé ce plan, enclenché un plan social de fermeture. Et cette semaine, ce plan de sauvegarde de l'emploi, eh bien, il a été rejeté par l'administration.
Oui, la direction du travail, la directe, a pointé une non-conformité de la procédure. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en résumé, l'administration a demandé à Ford de revoir sa copie. C'est un répit, un délai supplémentaire. Et ici, les syndicalistes espèrent que ces quelques jours permettront à Punch, le repreneur, de peaufiner son dossier. Gilles Lombersan est le secrétaire du comité d'entreprise.
Il faut absolument que Punch aboutisse sur son projet, son business plan qu'il nous avait présenté. C'était 350, 400 quoi. Ce qui permettait à tout le monde de trouver son compte. Parce qu'il faut savoir que sur l'effectif global de 872, il y en a pratiquement plus de la moitié. C'est des pré-retraitables et quelques collègues avec des solutions individuelles. Mais il y a un certain nombre qui souhaitaient vraiment garder notre emploi, nos conditions d'emploi d'aujourd'hui. Et donc voilà, une fermeture d'usine comme la nôtre, ça serait une catastrophe. Ce n'est pas une fatalité. Même si le projet Punch n'était pas viable, il est évident qu'il faut trouver une autre solution. Il y a une bataille à mener pour le maintien de l'emploi industriel.
On entend ce syndicaliste qui dit qu'il faut mener la bataille, sauf que des dizaines de salariés, eux, ont plutôt envie de tourner la page, Stéphane.
Oui, c'est vrai. Beaucoup, effectivement, nous l'ont confié au cours de ces dernières semaines. Il y a une lassitude, une forme d'épuisement nerveux. Vous savez, cela fait une bonne dizaine d'années maintenant que ce site industriel vit dans la crainte d'un désengagement, d'une fermeture. Et puis, la moyenne d'âge des employés est de 52 ans. Alors, fermer plutôt que de revendre l'usine, ce choix du constructeur américain qu'il a annoncé mi-décembre, juste avant les fêtes, a suscité des réactions très vives jusqu'aux plus hautes autorités de l'État. On se souvient du ministre de l'économie Bruno Le Maire pointant une trahison et même le président de la République qui a jugé cette attitude hostile et inacceptable.
Alors cette dimension politique, évidemment, elle n'a pas échappé à un salarié bien particulier de cette usine, c'est Philippe Poutou.
C'est vrai, Philippe Poutou, ouvrier ici à Blanquefort, chez Ford et délégué CGT.
La responsabilité de Ford, c'est la plus grosse responsabilité, puisque à force de dire qu'ils ne voulaient pas vendre leur usine, qu'ils allaient la fermer, ben ça contribue évidemment à faire en sorte que le repreneur ne puisse pas finaliser ses commandes, puisque les clients, visiblement, ont compris que Ford ne voulait pas, donc les clients seraient allés vers d'autres projets. Si Ford ne plie pas, il faut absolument que l'État intervienne, prenne l'usine et de manière à la garder disponible pour une éventuelle reprise dans la foulée. L'État peut toujours dire que ce n'est pas notre rôle. Alors pourquoi c'est le rôle de l'État de donner de dizaines de millions d'euros à Ford pendant des années alors que Ford n'a jamais cessé de supprimer des emplois? C'est évident que si ça échoue, le gouvernement il se prend une vraie claque.
Voilà, on comprend bien que Philippe Poutou met la pression sur le gouvernement. D'ailleurs, il rappelle au passage que des aides publiques ont été versées ces dernières années pour maintenir les emplois dans l'usine, des millions d'euros, ce qui a de quoi nourrir d'ailleurs l'amertume des élus élus au niveau local.
Oui, d'Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de la métropole, à Jean-Luc Glaize, président du département de la Gironde, sans oublier les parlementaires, la maire de Blanquefort. Il y a vraiment un sentiment partagé d'écœurement. Ce délai supplémentaire lié au rejet du PSE présenté par Ford suffira-t-il à imposer le plan de reprise? C'est la question que tout le monde se pose. Mais Alain Rousset, le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, fin connaisseur du monde de l'industrie, souligne la difficulté de la tâche.
J'ai pas beaucoup d'espoir. Honnêtement, il faut pas qu'on se berce d'illusions. Cela dit, s'il reste 5 à 10% de chance, il faut qu'on puisse tout tenter. La façon avec laquelle Ford se comporte est un pur scandale. Première leçon, il faut diversifier le tissu industriel. C'est très bien d'avoir des grands groupes, mais à un moment donné, vouloir faire venir de l'étranger des miracles qui, au bout de 10 ans, avec la loi Pénicaud, peuvent mettre la clé sous la porte sans avoir d'obligation de restructurer, c'est quand même très fragile. Deuxième réflexion, c'est l'État a perdu tout moyen de tordre le bras à des groupes comme Ford quand ils font une telle ignominie.
La loi Florange, elle oblige à chercher un repreneur, pas à accepter une offre de reprise.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment peut-on demander à Punch aujourd'hui d'avoir toutes les signatures alors qu'il n'est pas en production et qu'il n'a pas présenté sa nouvelle boîte? Mais enfin, c'est hallucinant. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on renforce la loi.
Aujourd'hui, vous mettez combien sur la table par rapport au dossier de reprise?
Il y a un projet de 12 millions d'euros sur les collectivités locales, la région en mettra 8.
On entend la colère du président de la région de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, mais on a vu surtout hier, je le rappelais, à Strasbourg, l'inquiétude de l'intersyndicale qui a rencontré Punch, le seul repreneur potentiel. Effectivement, ils sont repartis, on le disait, inquiets.
Oui, alors le problème dans un délai aussi court et dans le contexte que l'on vient d'évoquer, c'est de convaincre des clients de produire un engagement écrit, une lettre d'intention qui pèserait lourd dans l'offre de reprise, disant « Ok, si vous reprenez ce site, on vous passera des commandes ». De sources proches de ce dossier, on apprend que l'État serait en train de solliciter des constructeurs automobiles pour les inciter à le faire. On pense évidemment aux constructeurs français.
On entend à travers tout ce que vous nous dites, Stéphane, que l'espoir est mince, que Ford, visiblement, va vers la fermeture de l'usine en mois d'août, et donc des femmes et des hommes qui ne savent pas ce qu'ils vont produire dans 7 mois.
Oui, c'est vrai. Il y a quelques semaines, alors que Ford venait de rejeter l'offre de reprise, Thierry m'avait confié son angoisse, tout comme Muriel, également salarié ici chez Ford.
C'est une grande gifle que j'ai reçue, oui, de cette annonce-là. Ouais. Mais on ne va pas tourner la page comme ça. On avait retrouvé un repreneur, on a accepté tout ça. Gel du salaire, perte des RTT, on a subi tout ça, des acquis qu'on a gagnés pour que l'emploi ressuscite avec un nouveau repreneur. Et à l'arrivée, zéro. C'est dégueulasse parce que ça va engendrer de la souffrance, beaucoup de choses. Sans travail, on est très faible. On a connu les premières années, ça a été pénible. On avait les pieds dans l'huile, on faisait beaucoup d'heures supplémentaires. On était en 3-8 pour en arriver maintenant ici. Ouais. J'ai 54 ans et demain, parce qu'il y a la maison à payer, les enfants. On a un numéro. Chaque salarié, on est badgé, on a un numéro. On est un numéro. On n'est pas un humain, on est un numéro. J'ai ce ressenti-là.
Moi, j'ai 51 ans. J'espère qu'il y a des entreprises qui vont nous entendre et qui viendront pour qu'on puisse postuler chez eux. Il y a mon compagnon qui est ici aussi. Lui, ça fait 30 ans qu'il est là.
Là, si aujourd'hui rien ne change, l'été prochain, vous êtes au chômage tous les deux.
Oui, et en plus on vient de faire construire, donc bon, ça va être vraiment compliqué.
L'angoisse des salariés de l'usine, Fabienne, est celle naturellement des sous-traitants. Hein. Quelques 850 emplois en jeu chez Ford, autour de 2000 emplois induits.
Donc on imagine effectivement tout l'enjeu pour l'ensemble du bassin d'emploi, comme vous le dites, autour de cette usine. Et le prochain épisode, vous me disiez, c'est déjà que Ford revoit sa copie.
Et la renvoie effectivement à la direction du travail. D'après les estimations, il y en a environ pour un mois. C'est le temps du répit.
Et donc encore beaucoup d'incertitudes pour les salariés. Merci beaucoup Stéphane Place de nous avoir éclairé sur ce dossier. On le voit qui s'annonce très épineux pour les salariés bien sûr en premier lieu, mais bien évidemment pour les pouvoirs politiques en place.
Merci Fabienne.
Europe 1.
À suivre, la lutte contre l'homophobie, ça commence dès le collège. Témoignage édifiant, vous allez l'entendre, dans une classe de 4e à Avignon.
13h11, tout terrain se poursuit jusqu'à 14h. Toujours avec vous Fabienne Lemoyle et les reporters d'Europe 1.
Ça suffit, c'est donc le mot d'ordre de la grande campagne de sensibilisation contre l'homophobie, campagne lancée cette semaine par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Lutter contre l'homophobie, c'est évidemment lutter pour les valeurs de la République, c'est une sorte d'évidence, et c'est l'école qui est le premier lieu, avec la famille, où on doit dire ces évidences. Moi, mon but, c'est que si vous voulez, dans une cour de récréation, on n'est pas le jeune isolé qui se fait harceler par tous les autres, mais que ce soit celui qui à une pensée et un discours homophobe stupide qui se sente, lui, honteux. Et c'est ce qu'on va arriver à faire, parce qu'on va s'en donner les moyens.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Spécialiste éducation d'Europe 1. On a bien compris à travers les propos du ministre que la lutte contre l'homophobie, ça commence dès l'école. Ça va passer donc par ces affiches avec un slogan « ça suffit ». Mais surtout, Virginie, ça s'appuie sur des ateliers en classe, comme celui auquel vous avez assisté à Avignon. Des ateliers initiés par SOS Homophobie, 26 000 rien que l'an passé, de la 6e à la terminale. Alors concrètement, racontez-nous déjà comment ça se passe.
Alors on prend une classe entière, en général une classe de 4e, qu'on sort vraiment du cadre de la classe pour les mettre dans une salle plus grande, un peu neutre. Là, c'était donc à Avignon, dans un collège REP+, donc un collège de l'éducation prioritaire où je suis allée.
C'est vous qui aviez choisi le lieu ?
Oui, j'ai choisi avec l'aide de SOS Homophobie l'endroit, parce que je me dis que le collège, c'est effectivement le moment, le lieu, l'âge où ça se passe, vraiment où on commence à prendre conscience d'abord de sa sexualité et puis on commence à s'insulter les uns les autres, malheureusement, dans la cour de récréation. Et puis, c'est donc l'homophobie, un sujet épineux, surtout à cet âge-là. Vous vous souvenez, la 4e, c'est l'âge où on apprend la reproduction humaine en sciences et vie de la Terre. Donc, c'est sur fond de ricanement en général. Hein, c'est la pleine adolescence. Et donc, c'est l'âge où les insultes et le harcèlement sont peut-être les plus violents. Donc, il faut commencer d'abord par se mettre d'accord au début de l'atelier sur les termes. Alain Pécou, l'intervenant, commence par demander une définition et ça commence comme ça.
L'homophobie, c'est quand des gens détestent les gens qui aiment leur même sexe, donc homosexuels ou lesbiennes, et qui vont leur faire du mal, les harceler, tout ça.
C'est une personne qui n'aime pas des personnes qui s'aiment et qui ont le même sexe.
Donc on peut dire un homosexuel, une homosexuelle, une lesbienne et un gay. Donc on va parler pendant 2 heures d'homophobie, donc d'homosexualité. C'est un sujet un peu délicat. Tout le monde n'est pas d'accord dessus, mais tout le monde peut s'exprimer. Vous pouvez dire ce que vous pensez, simplement, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qu'il vient d'entendre, il lève le doigt ou elle lève le doigt. Donc on s'explique, on ne s'engueule pas. Ça vous convient ?
Donc voilà, on voit Alain plante le décor et il leur laisse la liberté de dire tout ce qu'ils veulent.
Oui, effectivement, ils ont, vous allez entendre des phrases très crues, ils ont une liberté totale. Parfois, on entend très bien d'ailleurs derrière ces propos ce que disent probablement les parents à la maison. Alors, le principe de l'atelier, c'est que les élèves ne se censurent pas, ils disent ce qu'ils pensent pour que justement la discussion ait lieu. Et effectivement, ces élèves de 4e, vous allez l'entendre, disent parfois des horreurs.
J'ai un fils comme ça, moi je l'envoie à la guerre.
L'envoie à la guerre.
Ouais, j'envoie mon fils à la guerre pour qu'il s'endurcisse.
Quelqu'un qui aime la même personne du même sexe, on respecte, mais on a le droit de pas aimer.
C'est sale. Bah, dans la cour, bah, c'est mal vu. Si genre on est gay, bah, je crois qu'on va se faire taper.
Moi je sais pas si les gays, on doit les appeler monsieur ou madame.
Bon, on voit effectivement que les propos peuvent être très durs. D'ailleurs, vous avez senti le malaise chez un des ados et vous êtes allé vers lui avec votre micro. Il savait clairement que vous étiez journaliste et que vous alliez enregistrer.
Oui, j'avais un micro, une perche, il n'y avait pas de mystère là-dessus. C'est pour ça aussi que certains, probablement, sont un peu dans la provoque. Certains vont encore plus loin que les autres jours. Mais c'est ce qu'ils se disent aussi dans la cour quand ils se provoquent les uns les autres. Et donc, dans cette classe-là, il y a un élève vers lequel je suis allée parce qu'il était entouré de filles, qu'on voyait qu'il n'était pas très à l'aise. Et Alain m'a dit, peut-être lui, interrogez-le. C'est Ayman, donc un élève de 4e. Et effectivement, vous allez entendre très vite, on sent que toute cette émotion contenue, eh bien, elle lâche.
Quand je suis arrivée en 4e, il me disait ça pédait et tout. Il me disait des insultes et tout. Il me disait t'aimes les hommes et tout. Et ensuite, il disait, ouais, il parlait de sexe et tout, mais dégueulasse.
Parce que toi, tu parles aux filles, du coup, on te traitait de pédé, c'est ce que tu dis.
Oui, on me traitait de pédé et tout, et par exemple, je faisais même pas de manière.
En fait, dans la cour, c'est pas possible pour un garçon de parler avec des filles ou de rester avec des filles, ça, c'est mal vu.
C'est ça, on n'a pas le droit, en fait. Et moi, quand il dit ça, j'ai envie de les frapper, mais... J'ai pas envie d'un autre côté parce que j'ai peur d'avoir des problèmes et j'ai peur d'être bloquée et tout. J'ai pas envie qu'ils soient dans mon passage. J'ai presque envie de les tuer.
Voilà, donc c'est vraiment très très fort ce qu'il raconte, ce petit Ayman.
On ressent, nous, évidemment, ici en studio, cette émotion. Vous, d'ailleurs, quand cette adolescent vous dit ça.
C'est très difficile d'entendre ce qu'il dit, de voir les autres autour qui ne sont pas très émus finalement pour ceux qui, on sent, qui profèrent les insultes. Hein. Et on se demande surtout si les adultes autour font ce qu'il faut, parce que c'est très difficile. Alors par exemple, il raconte qu'il a prévenu la CPE, que la CPE a pris la situation en main, mais elle ne peut pas maîtriser ce qui se passe dans la cour. Enfin, jusqu'au bout, elle fait ce qu'elle peut, mais on sent que la souffrance, elle est difficile, vraiment difficile à éradiquer. D'ailleurs, l'une des filles avec qui il est toujours dans la cour raconte ce qu'on lui dit dans la cour.
Bah, espèce de gay, c'est, tu restes qu'avec des filles, t'es même pas un homme, t'es une tapette et tout. En gros, on insulte quoi, tout le temps.
Ce qui est difficile, c'est que ce petit garçon, évidemment, il ne sait pas du tout s'il est homosexuel ou pas. C'est simplement
il est dans le questionnement, ou éventuellement même pas dans le questionnement, mais avec la réflexion des autres, ça le questionne.
Voilà, c'est ça. Voilà. On lui dit, on lui assène qu'il est gay, alors que lui, il ne s'est jamais posé la question. Il ne sait pas très bien, finalement. Il est jeune, il est en quatrième.
Alors, Virginie, est-ce que ce qu'on vient d'entendre, hein, ça reflète la tonalité générale ?
Alors, il y a des élèves qui, dans la classe, sont à l'opposé. Donc, essaient de convaincre les autres et leur disent « Ici, on vit en France, au pays de la liberté, l'égalité, la fraternité. » Enfin, ils leur disent tous les mots qu'ils ont appris et qu'ils ont compris, dont ils sont convaincus, eux. Et ils essaient de contrebalancer, finalement, ces propos atroces qu'on entend.
Alors, on comprend, en vous écoutant, pourquoi ces ateliers sont plus que nécessaires, d'autant que les collégiens ont très vite été soucieux aussi, on va l'entendre, de savoir si Alain, qui menait l'atelier, était lui-même homosexuel.
Est-ce que je suis gay ? Oui. Je me suis rendu compte que j'étais gay quand j'avais votre âge, à peu près, en quatrième. À l'époque, en France, l'homophobie était énorme. En France, on considérait que l'homosexualité, c'était une maladie mentale, et on considérait que c'était un délit. Il n'y avait pas d'association qui passait dans les lycées et les collèges. Il n'y avait pas SOS homophobie. On n'allait pas expliquer aux gens que ce n'est pas grave si on est gay ou lesbienne, que c'est le problème, c'est l'homophobie et pas l'homosexualité. Alors à l'époque, je me suis dit, c'est une catastrophe qui m'arrive, je vais avoir une vie affreuse, c'est terrible. Et puis aujourd'hui que je suis vieux, je suis très content d'avoir été gay parce que je n'ai pas eu de problème particulier. J'ai rencontré l'amour. J'ai vécu longtemps avec quelqu'un qui était formidable, donc je suis bien dans ma peau.
Ça, c'est un témoignage très émouvant aussi quand il raconte sa vie de jeune gay dans les années 70 et qui heurte beaucoup les élèves, enfin qui les frappe plutôt. Parce que,
pourquoi ?
Alors, d'abord parce que Alain va à l'encontre des stéréotypes que les élèves ont probablement. Parce que Alain, physiquement, c'est le grand-père qu'on peut imaginer, c'est-à-dire il a les cheveux en brosse, blanc, il est plutôt costaud, il est plutôt cash, etc. Et j'imagine, dans ce qu'ils disent, etc., à travers la discussion,
dans ce qu'on a entendu avant,
c'est pas du tout comme ça qu'ils voyaient un gay. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se disent quand même, ce type qui nous parle d'homophobie, c'est un peu louche, est-ce qu'il n'a pas un intérêt à nous parler de ça ? Est-ce qu'il ne serait pas gay ?
Alors, Alain, lui, comment il vit les mots qu'on a entendus au début, très durs, de ses collégiens ?
Alors, Alain reconnaît que cette classe était particulièrement dure. C'est pas toujours comme ça. Il n'entend pas toujours des choses aussi dures. Mais les réflexions de ses élèves, dures à entendre, pour lui, justifient justement ces ateliers. Pour lui, ils sont nécessaires.
Ce qui nous console quand on a affaire à des classes difficiles comme celle-ci, c'est qu'on se dit qu'il est possible qu'il y ait parmi eux quelqu'un qui sera lesbienne, gay, bi, trans, et qui aura entendu qu'il a le droit de l'être. Alors que dans la cour, dans sa classe, il n'entend pas ça du tout.
Voilà, et pour lui, donc, la réflexion à son encontre, sur les gays en général, évidemment, il en a entendu plein et il est absolument blindé. Et il raconte même, donc, pendant l'intervention, pourquoi il fait ça, lui, bénévolement, depuis des années, pourquoi il va dans les classes des collèges les plus difficiles.
Dans le lycée où j'étais professeur, où tout le monde savait que j'étais gay, où ça posait de problème à personne, en 2005, deux élèves ont été mis à la porte par leurs parents quand ils ont appris qu'ils étaient gays. Et il y en a un qui était en seconde, qui avait 15 ans. Et heureusement que la proviseure du lycée l'a mis à l'internat pour le protéger, le temps qu'on trouve une solution. Et voilà pourquoi je fais ça aujourd'hui. Moi, je pensais que l'homophobie, c'était une histoire. Et en fait, c'est une réalité.
Et au final, est-ce que le message est passé ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il fait un petit sondage à main levée. Il demande qui a évolué sur ces questions-là. Et deux tiers de la classe lèvent la main pour dire qu'effectivement, alors évidemment, il n'a pas retourné l'opinion de toute la classe, mais ils ont un peu progressé, un peu changé d'avis. Et ils ne faisaient pas ça pour faire plaisir aux profs. Hein. Ça, on voyait dans leur réaction que ce n'était pas ça l'idée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà du thème pur de l'homophobie, c'est qu'on parle aussi de sexisme, on parle aussi d'antisémitisme, on parle aussi d'égalité filles-garçons. C'est vraiment un point d'entrée, ces ateliers-là, pour parler de beaucoup de choses, pour parler de tolérance, finalement, au collège. Et c'est vraiment l'âge où c'est absolument, je vous assure, absolument nécessaire.
Merci beaucoup, Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Et on le rappelle, 26 000 ateliers dans toute la France, rien que l'année dernière, avec SOS Homophobie.
Et ils cherchent encore des bénévoles. Ils ont beaucoup, beaucoup de demandes des collèges. Ils cherchent des bénévoles, gays ou pas.
Le message est bien passé. Merci, Virginie. C'est la semaine dernière que le fameux guide rouge est sorti en librairie, le guide Michelin cru 2019, avec toujours autant d'émotions pour les nouveaux promus, comme Moreau Colagréco, qui décroche sa troisième étoile à Menton.
C'est tellement d'émotions. Merci les guides, merci à vous tous. Merci à mes équipes. Merci mon amour. Merci au sacrifice de mes enfants. La cuisine française, c'est la meilleure cuisine du monde.
Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Chef adjointe du service économie d'Europe 1, mais surtout fin palais qui suivait l'actualité de tous les grands chefs. Alors chaque année, on guette les récompensés, les destitués. Mais là, cette année, Anne-Laure, j'ai envie de dire qu'on a vraiment voulu secouer le cocotier du côté de chez Michelin.
Oui, c'est vrai. Il y a d'abord eu quelques coups de tonnerre. Et en premier lieu, la destitution de Marc Véra, le chef reconnaissable entre mille avec son grand chapeau noir.
Une icône.
Voilà, il avait pourtant gagné d'un coup. Trois étoiles l'an dernier pour la Maison des Bois, son restaurant à 1800 mètres d'altitude à Manigaud en Haute-Savoie. Et cette année, eh bien, le guide lui a retiré une étoile. Un coup de massue pour lui et ses équipes.
On n'a rien compris, on est tous abasourdis. On est le seul restaurant à avoir nos plantations, nos chèvres, nos laits. Je comprends pas. C'est jamais arrivé. Donner trois étoiles quand quelqu'un ouvre et enlever la troisième étoile l'année d'après. C'est jamais arrivé dans le guide. Vous savez, je suis un guerrier et je repars à la conquête. Hein.
C'est vous qui l'avez interviewé à Nord. Je crois qu'il n'avait pas tellement envie de répondre au départ.
Non, effectivement. Et bon, il a accepté. On sent sa déception, son amertume en fait et son incompréhension. Il disait que c'était surtout très dur pour ses équipes en fait, hein, plus que pour lui. Il avait été prévenu la veille.
Alors voilà pour les grands perdants. Cela avait été prévenu, mais pour ceux qui s'en sortent avec les honneurs. Et c'est ça qui a été l'une des grandes particularités cette année, vous me l'avez dit. Le secret a été bien gardé jusqu'au bout.
Oui, le Michelin, on peut le dire, a joué avec les nerfs des chefs. Christophe Hay, qui accroche une deuxième étoile à sa veste cette année, en a fait l'expérience.
Pour la maison d'à côté, j'ai juste reçu une invitation par mail. Donc je ne savais pas ce que je venais faire, machin, voilà. Et je me suis dit, mais mince, je vais avoir cette deuxième, je ne vais pas l'avoir. C'était très dur.
Voilà, stress jusqu'au bout. Ce chef du Loir-et-Cher symbolise bien d'ailleurs cette génération de promus dans cette édition 2019. Des chefs qui utilisent des produits locaux, qui ont leur propre potager.
Parce qu'il est où, Christophe Hay ?
Il est dans le Loir-et-Cher, près de Chambord. Laurent Petit, du Clos d'Essence à Annecy, qui gagne sa troisième étoile, en est aussi un magnifique exemple.
C'est la rencontre avec un producteur d'endives. On va exploiter l'endive de fond en comble, c'est-à-dire avec le chicon et avec la racine. On va aller sur les amers, parce qu'on pense que c'est une saveur un peu compliquée, mais qui finalement est assez géniale.
J'ai bien entendu, il a parlé d'endive.
Voilà.
C'est pas vraiment un produit trois étoiles, a
priori. Exactement.
Hein.
Et c'est là-dessus qu'il a insisté d'ailleurs quand il est monté sur scène. Il dit voilà, moi je travaille des produits simples. C'est vraiment voilà, son créneau. L'autre chef qui décroche le Graal cette année, hein, c'est l'italo-argentin Moreau Colagréco du Mirazur à Menton, un élève d'Alain Passard. C'est la première toque étrangère à rejoindre ce club très fermé des triplement étoilés.
La particularité aussi, c'est le nombre record de femmes dans cette édition 2019.
Oui, 11 au total, hein, c'est un record effectivement. Une arbore désormais les deux étoiles, c'est Stéphanie Lequellec, l'énergique chef de la scène à l'hôtel Prince de Galles à Paris. Et puis parmi les nouvellement distingués, il y a Amélie Darvas, une jeune chef de 30 ans. Elle a déjà une étoile alors que son restaurant n'a que quelques mois seulement. Alors elle a tout plaqué. Hein. Elle a plaqué son restaurant parisien pour créer l'éponème à Vaillant, un village de 150 habitants dans l'Hérault. Toute son équipe l'a suivie.
Ça, c'est incroyable.
Et elle dédie sa récompense à toutes les femmes chefs.
Il n'y a pas de volonté de faire de quotas. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des femmes. On en parle de plus en plus. C'est super. Il y a plein de femmes dont on ne parle pas. Il y en a, je pense, à peu près 600 en France. Moi, je suis hyper honorée de pouvoir les représenter aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
On comprend bien les femmes mises à l'honneur. Elles étaient oubliées des palmarès précédents ou c'est une volonté, justement, de rétablir un peu les choses, la parité dans ce métier qui reste quand même très masculin.
Oui, alors il y a sûrement eu une volonté d'aller chercher les femmes chefs. Et puis, il se trouve aussi qu'il y a eu des ouvertures de restaurants par des femmes l'an dernier, que les inspecteurs sont allés voir ces tables et qu'ils ont décidé de les distinguer.
Alors, on voit bien une petite ou une grande révolution. C'est lié à quoi ? C'est la patte du nouveau patron du guide qui a vraiment rebattu toutes les cartes.
Alors, c'est sûr qu'il a voulu marquer son territoire. Lui, c'est Gwendal Poulenec. Il a 38 ans. C'est un homme de l'interne qui a pris la direction du guide il y a tout juste quelques mois. Personne n'est propriétaire de son ou ses étoiles. Voilà ce qu'il a tenu à rappeler. Et en s'adressant au chef, il a voulu marquer l'indépendance du guide.
Vous êtes libre, nous aussi nous le sommes. Sans aucun quota,
ni parti pris.
Indépendance qui a d'ailleurs conduit le guide à réintégrer cette année Sébastien Bras, en lui supprimant au passage une étoile. Le chef avait pourtant réclamé l'an dernier de ne plus figurer dans le guide, demande qui avait alors été acceptée. La nouvelle direction lui signifie là que ce n'est pas à lui d'en décider.
Et de 3, il passe à 2 étoiles, exactement, si on a bien compris. Alors, le guide Michelin, pour son cru 2019, a donné un coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour le guide de se relancer ?
C'est sûr, on est aujourd'hui envahi par d'autres sources pour s'informer sur la gastronomie. TripAdvisor, une flopée d'autres guides. Il faut savoir aussi que les ventes du guide baissent chaque année et que, bien sûr, il est essentiel d'être aujourd'hui présent sur Internet. La stratégie numérique, c'est d'ailleurs l'une des missions confié au nouveau directeur du guide.
Merci Anne Jumet, on a bien compris qu'il y aura encore des surprises l'année prochaine parce que le patron du guide l'a bien dit, son étoile on l'a mais on la garde pas plus d'un an. Merci Anne.
Europe 1.
Et je vous le disais, nous devions être en ligne normalement avec Carascas, avec Pascal Ménot pour cette grande manifestation à l'appel de Juan Guaido cet après-midi pour réclamer des élections libres. Malheureusement, les conditions techniques ne nous permettent pas de réaliser dans de bonnes conditions ce duplex. On retrouvera bien sûr Pascal Ménot pour suivre cette grande manifestation dans le 18-20 de Philippe Vandel. Ce soir, à suivre dans Tout Terrain, le procès de l'affaire du viol du 36, deux policiers jugés pour le viol d'une touriste canadienne cette semaine. Ambiance très tendue, vous allez l'entendre, avec un verdict qui aura été rarement aussi incertain.
13h31, c'est la suite de Tout Terrain, toujours avec vous Fabienne Lemoyle, et avec un procès.
C'est un procès pas comme les autres qui s'est tenu devant la cour d'assises de Paris cette semaine. L'affaire dite du viol du 36 quai des Orfèvres, deux anciens policiers de la BRI jugés pour le viol dans les locaux du 36 d'une touriste canadienne, c'était en 2014. C'est jeudi soir que le verdict est tombé après 8 heures de délibéré avec Chloé Triomphe qui l'annonçait dans le grand journal du soir.
Effectivement, 7 ans de prison pour les deux policiers, c'est exactement les réquisitions de l'avocat général. C'est une peine importante, comme l'a dit le président.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Du service police-justice d'Europe 1. Déjà une première question, Chloé, on vient d'entendre votre direct dans le journal de 18h de Mathieu Béliard. Vous êtes dans quelles conditions ? Parce que vous chuchotez.
Effectivement, je chuchote parce que exceptionnellement, je suis toujours dans la salle d'audience, mais je précise que c'est entre le verdict et l'audience civile qui fixe les dommages et intérêts, et qu'à ce moment-là, l'audience était suspendue. Donc, exceptionnellement, j'ai eu le droit de prendre un téléphone et donc de faire un direct pour Europe 1.
Alors, ce qui m'a marqué, Chloé, quand on s'est parlé de ce procès au matin du verdict, c'est que vous qui êtes habituée des tribunaux, vous m'avez dit, vraiment là, je ne sais pas ce qui va sortir de délibéré des jurés. C'est vraiment totalement incertain.
C'était totalement incertain parce que du premier au dernier jour, vraiment, il y avait version contre version et ces versions étaient totalement irréconciliables. Donc savoir ce que les jurés allaient décider après ça, vraiment, c'était impossible. Et puis, pour vous montrer à quel point ce procès était complexe, il faut savoir qu'il y a peut-être failli ne jamais y avoir de procès, puisque au terme d'une instruction qui a duré 2 ans et demi, eh bien, les deux juges d'instruction avaient décidé d'un non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'éléments à charge, selon elle, pour renvoyer les policiers devant une cour d'assises. Alors, le parquet a fait appel, la chambre de l'instruction en a décidé autrement, et donc on est arrivé au procès. Mais c'est pour vous dire combien, dès le départ et dès l'enquête, c'était compliqué.
Et on comprend mieux pourquoi, du coup, le procès qui a duré 3 semaines était précieux et pourquoi tout semble s'être joué à l'audience.
Alors c'est le principe des assises, c'est l'oralité des débats. Déjà, il faut que tout soit dit, tout soit lu, tout soit entendu, tout soit débattu. Mais là, c'est vrai que comme chacun avait sa version, chacun y croyait dur comme fer. Les policiers ont dit du début à la fin, on est innocent, on n'a jamais violé cette femme. Ils pleuraient comme des enfants devant les jurés. Et de l'autre côté, on avait Emily Spanton qui n'a jamais varié sur ses accusations envers eux. Elle a toujours dit non, ces deux hommes m'ont violée. Elle l'a redit en français, alors que la plupart du temps, elle s'exprimait en anglais. Elle avait d'ailleurs l'aide d'un interprète. Mais tout ça, après, a été décortiqué au travers de tous les éléments factuels. Il y avait de la téléphonie, il y avait des vidéos sur le début de la soirée ou dans un bar ou sur l'entrée des policiers et de la plaignante au 36 quai des Orfèvres. Il y avait des prélèvements ADN, évidemment. Il y avait aussi des éléments de psychologie sur Emily Spanton, puisque sa parole avait été mise en doute par les policiers qui disaient qu'elle mentait. Et puis, ça donnait des débats extrêmement tendus, il faut quand même le dire. Ça a d'ailleurs un petit peu réchauffé la salle, parce qu'on précise que c'était dans le vieux palais de justice, sur l'île de la Cité, dans une aile du bâtiment.
Donc, à 2 pas d'ailleurs du 36.
À 2 pas du 36. Pour elle, c'était assez traumatisant. Bon, bah, c'était pas chauffé. Hein. Voilà, donc on a dû nous amener des petits radiateurs d'appoint parce qu'on avait, les jurés étaient en doudoune. Les débats étaient extrêmement vifs.
Donc ça crée une atmosphère effectivement très
extrêmement
particulière.
Extrêmement vif entre avocats des deux côtés parce que les avocats de la défense ont considéré que le président était assez à charge.
Et celui qui a été aussi déterminant, c'est l'avocat général quand il a pris la parole.
L'avocat général, c'est simple. Son réquisitoire a duré 3 heures. À l'issue de ces 3 heures, je me suis dit, ils sont coupables. Ensuite, la défense a plaidé 5 heures l'après-midi et après les plaidoiries de la défense, je me dis non, il y a trop de doutes.
Ce que montre aussi ce procès, qui est un procès pour viol, c'est la difficulté dans ce type de dossier à approcher la vérité.
Bah, effectivement, puisque les viols souvent se déroulent dans un espace clos, caché, pas aux yeux de tous, il n'y a pas de témoins. Donc il y a la parole de cette femme qui est remise en cause par les policiers. Ces derniers disent qu'elle ment. Elle dit, ils mentent. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? C'est très compliqué. Et donc là, pour ce verdict qui a considéré que Madame Spanton, certes, avait été imprécise, mais parce que les jurés ont considéré que c'était dû à son degré d'alcoolisation cette nuit-là, voilà comment ils ont excusé ces imprécisions, ils ont considéré que ce verdict permettait quand même d'établir qu'elle avait subi une relation sexuelle non consentie de la part de ces hommes, en d'autres termes qu'elle avait été violée. Et pour Maître Obadia, son avocate, c'est une victoire.
Enfin, en France, on considère qu'une femme qui a été violée n'a pas à se justifier sur sa vie privée. La Cour a considéré que Madame Spanton n'avait pas menti, qu'elle n'est pas mythomane, et elle a fondé sa décision sur des éléments objectifs de ce dossier, qui ne sont pas la parole d'une personne contre la parole des accusés.
Il faut comprendre cette mise au point de son avocate à la fin du procès parce que parfois, la victime a eu l'impression que c'était elle qui était mise en accusation.
Oui, d'ailleurs, il s'est produit une scène assez rare dans ce procès, c'est qu'à l'issue des dépositions des policiers, eh bien, la partie civile a été rappelée à la barre. Elle a été interrogée. Honnêtement, c'était un interrogatoire qu'elle a subi de la part de l'avocat général pour repréciser des choses. Ça arrive très très rarement, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle revienne réexpliquer et quasiment se justifier sur toutes ces imprécisions. C'est pour vous dire s'il y avait quand même des questions qui se posaient. Et c'est vrai que toute sa vie privée a été disséquée, a été mise sur la table, mais parce qu'on parle de viol, d'affaires sexuelles. Donc oui, sa sexualité a été examinée, y compris sa sexualité à Paris, quelques heures, quelques jours avant le viol.
Donc on a entendu la satisfaction finale de ce verdict pour la victime. Tonalité totalement différente du côté de la défense.
Pour la défense, c'est simple, ils ne vont pas par quatre chemins, c'est une erreur judiciaire. Les policiers ont toujours dit du début à la fin qu'ils étaient innocents. Ils ont d'ailleurs exprimé ça comme des enfants en larmes, littéralement en larmes, devant la cour et les jurés, qui ne les a donc pas crus. Mais les avocats ont décidé immédiatement, dès qu'ils ont entendu le verdict, de faire appel. Il y aura donc un deuxième procès. Et je vous laisse écouter la colère de Maître Anne-Laure Compoint.
Mais c'est un parjure de la vie. La justice qui vous déclare coupable de faits que vous n'avez pas commis, et on vous déclare coupable. C'est abominable. C'est un innocent qui crie son innocence. Peut-être qu'il ne la crie pas toujours très bien, mais c'est un innocent.
Donc on l'a bien compris en écoutant l'avocate de la défense d'un de ces deux policiers. Il y aura un deuxième procès, vraisemblablement, puisque la défense a décidé de faire
c'est
appel.
C'est certain même, il y aura un deuxième procès sur cette affaire. On va à nouveau tout exposer, tout disséquer, tout recommencer et juger à nouveau.
Merci beaucoup Cléo Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1.
Le théâtre pour lutter contre la déradicalisation. Je vous emmène dans les coulisses du spectacle de notre compagnie Mascarade. C'est avec Martin Fenot.
Vous écoutez Tout Terrain jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Fabienne Lemoelle.
Le théâtre pour sensibiliser les plus jeunes au danger de la radicalisation. Démarche menée par la compagnie Mascarade en Eure-et-Loire depuis 2014. Martin Fenot a assisté à ce spectacle pour Europe 1.
Alors je suis devant une médiathèque à 100 mètres d'un collège en Eure-et-Loire où j'ai assisté, c'est assez rare, à une pièce de théâtre très particulière sur la radicalisation islamiste.
Ah
comme
bon
public, deux classes de 3e issues de ce collège considérées comme à risque par la préfecture. Alors cette troupe de théâtre tente de déconstruire le discours d'endoctrinement et les tentatives d'approche sur Internet.
Bonjour Martin Fenot.
Bonjour Fabienne.
On vient de vous entendre à l'instant dans l'extrait de Vous êtes où ce matin, vous parler de collège à risque. Ça veut dire quoi, collège à risque ?
Alors c'est un peu réducteur, un peu court, c'est plus complexe. En fait, ça veut dire qu'il s'agit d'établissements où il y a potentiellement des élèves qui ont fait l'objet de signalements pour radicalisation. Alors tout ça, évidemment, n'est pas public. Il s'agit d'informations que détiennent les chefs d'établissement, le rectorat, la préfecture. Ce que je peux vous décrire, c'est la démarche qui aboutit à l'intervention de cette troupe de théâtre. Il y a d'abord une demande d'un établissement scolaire qui prend l'initiative. Cette demande, elle est soumise au rectorat et à la préfecture qui donne ou non son accord. Ce que me confirmait un responsable de la préfecture, justement, c'est que les établissements ne sont pas choisis au hasard.
Alors, ces collégiens ont donc assisté à un spectacle. Comment ça se passe, ce spectacle ?
Ça commence par une introduction. Un acteur explique que la pièce va parler de la radicalisation, du terrorisme. Lors de la représentation à laquelle j'ai assisté, il a évoqué l'attentat de Strasbourg. En gros, il pose le décor. Les élèves ne sont pas pris de court. Ils sont vraiment mis à l'aise. Ensuite, le spectacle commence. L'histoire, en fait, c'est celle de Lisa, une ado avec ses problèmes d'ado, si je puis dire. Elle est en conflit avec ses parents, des parents divorcés. Elle ne s'entend pas du tout avec sa belle-mère. Son père est souvent absent. Elle se fait chahuter au collège. En gros, elle est en crise et elle va rencontrer sur les réseaux sociaux une personne qui va devenir son amie virtuelle, qui va la complimenter, la rassurer, gagner sa confiance. On va très vite comprendre que cet ami virtuel est un terroriste, un recruteur qui va lui donner plusieurs rendez-vous, la rencontrer et finir par la pousser à commettre un attentat. Je vous propose d'écouter un extrait.
Je ne sais pas quoi penser, c'est vraiment...
Mais qui te demande de penser ? Tu obéis, c'est tout !
En quel honneur, Enaoum ?
Tenez à te féliciter pour ton travail de détection des jeunes et des femmes grâce à la qualité de tes recrutements. Il y a des attentats de ces derniers mois... pratiquement tous réussis.
Voilà, on entend cet échange et on comprend bien que la démarche, effectivement, c'est une démarche de prévention, hein, puisque c'est un travail qui est fait par l'Éducation nationale déjà depuis maintenant plusieurs années, comme vous le disiez, avec ce souci de trouver un équilibre entre les troubles qu'on peut avoir à l'adolescence et effectivement le fait de s'engager dans un processus de radicalisation. Alors l'idée, c'est d'être un spectacle interactif. Ça veut dire que les collégiens participent à la pièce ?
Exactement. C'est vraiment l'objectif. Des collégiens sont choisis par un ou deux comédiens dans la salle alors que la pièce est en train de se jouer. Et ils viennent interpréter un rôle, mais un rôle qui n'est pas du tout écrit. Donc il y a une jeune fille, par exemple, qui a interprété le rôle d'une copine de Lisa. Et puis à un autre moment, un collégien qui a dû improviser, imaginer ce que dirait le petit frère de Lisa qui tenterait de la ramener à la raison. Écoutez.
Je sais très bien pourquoi t'es là. T'es complètement fou. T'aurais pu te faire tuer 1000 fois en venant jusqu'ici. Je te préviens, ça sert à rien. Je rentrerai pas.
Si, tu vas rentrer au moment où elle attend là.
Non. Je rentrerai plus. Ma nouvelle vie, ma nouvelle famille sont ici. D'accord ?
D'accord.
Voilà, on entend les rires, hein, effectivement, peut-être un peu de gêne. Est-ce que c'est facile pour eux de parler de ces sujets, justement, à leur âge ?
Non, bah vous le disiez, Fabienne, on entend que c'est un peu délicat. Hein. Vous l'avez entendu, la salle qui rit derrière, la petite voix du jeune collégien. Mais c'est ensuite, pendant les débats, que la parole se libère. Parce que, en fait, la pièce se découpe en trois parties. Et entre chaque partie, il y a 15-20 minutes d'échange mené par le comédien principal, le comédien qui va les questionner. Alors, pas frontalement sur la radicalisation, hein, mais plutôt sur leur usage d'Internet, la vigilance, la vie privée, les théories du complot, tout ce qui nourrit en fait la méthode d'endoctrinement d'un adolescent comme eux sur Internet par des groupes terroristes. Et donc, par ces biais-là, il y a un dialogue assez libre, hein, qui s'opère. Je vous propose d'écouter Cheryl, élève de seconde. Elle explique que ce n'est pas un sujet évident à aborder.
C'est compliqué aussi de parler avec sa famille de choses comme ça.
Pourquoi ?
Bah, c'est pas un sujet facile, c'est compliqué. Il y a notre vie personnelle, c'est compliqué. Il y a des trucs à pas dire.
Il y a des trucs à pas dire. Elle vous en a dit plus, justement, ou pas ?
Alors, non, mais on sentait en tout cas la gêne qu'elle pouvait ressentir. Pourtant, Cheryl, c'est une des jeunes filles qui s'est le plus exprimée dans la salle. Par exemple, il n'a jamais été question de parler de religion directement pendant ces débats. Mais l'acteur principal qui joue cette pièce depuis 4 ans, il m'a raconté qu'à plusieurs reprises, il avait dû faire face à des discours assez limites. Je vous propose de l'écouter.
On a eu une fois dans un lycée une jeune fille qui, pendant le débat, se lève et dit « Mais c'est normal quand on est adolescente qu'on puisse sacrifier sa vie au nom d'une cause. » Donc là, ça veut dire que ça pose question. C'est ce qu'on appelle un signe et qu'il faut faire très attention. Pourquoi la position de cette jeune fille ? C'est-à-dire, il y a des choses qui sortent, quoi, vous voyez. J'ai eu un prof aussi, comme ça. On a eu un prof radicalisé. Bah, ça, il s'est passé qu'il a pris la parole à la place des élèves. Il est parti dans un récit comme ça qui tourne en rond, très exclusif, sur la religion, etc. Enfin, c'est assez compliqué, quoi.
Voilà, on entend qu'effectivement, les choses parfois sont dites à demi-mot et qu'il faut savoir repérer ce qui peut être un signe de radicalisation. Quand il y a ce type de propos, est-ce qu'il y a des signalements ? Est-ce qu'on fait remonter justement ces propos au niveau de l'établissement scolaire ?
Alors après, c'est à l'appréciation hein, justement de l'établissement ou des élèves qui le remarquent. Mais ça fait 4 ans que la pièce est jouée et il y a eu effectivement des signalements pour radicalisation à la suite de plusieurs représentations. Alors attention, signalement, ça ne veut pas dire dénonciation, c'est un rappel que je fais parce qu'il a été fait à plusieurs reprises dans la pièce. C'est le message que veut faire passer la troupe de théâtre aussi à ses collégiens. Il y a la vigilance sur Internet, protéger sa vie privée, se méfier de la personne avec qui on parle sur les réseaux sociaux quand on ne la connaît pas. Et puis, il y a la vigilance au quotidien, en classe, parce que c'est les termes qui ont été employés. Signaler un camarade pour un comportement ou des propos qui paraissent inquiétants, c'est d'abord le protéger, notamment d'un éventuel endoctrinement.
Et effectivement, ce signalement qui est prévu par des circulaires hein, au niveau de l'éducation nationale, c'est faire remonter une information au niveau, par exemple, de l'académie. Ça ne veut pas forcément dire entrer dans un processus de judiciarisation avec une plainte et avec la mise en action de la justice ou de la police. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants que les comédiens ?
Alors oui, il y a parfois des policiers, des gendarmes, des responsables associatifs qui peuvent être questionnés par les collégiens ou les lycéens. Et puis dernière chose, ce n'est pas la seule troupe, hein, Mascarade, à faire ce type de spectacle interactif pour prévenir la radicalisation au collège ou au lycée. Il y en a 8 qui font ce type de spectacle en France, qui jouent un peu partout en France, donc dans les collèges et les lycées.
Merci beaucoup Martin Fenot. On rappelle qu'on vous retrouve tous les matins sur Europe 1 dans la matinale de Nikos Aliagas. C'est juste après le journal de 7h dans la séquence Vous êtes tous matin.
À bientôt Fabienne.
Europe 1.
À suivre, c'est l'exposition qui fait polémique en ce moment, plongée au cœur de l'URSS des années 30, dérangeant ou coquille vide. On fait la visite avec Diane Chenouda.
13h48, c'est tout terrain, suite et fin avec vous Fabienne Lemoyle. On va s'intéresser maintenant à une curiosité artistique et culturelle.
3 lettres qui intriguent et qui font polémique depuis quelques jours à Paris. DAU pour DAO, une exposition interactive bien étrange au Théâtre de la Ville et du Châtelet. Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
C'est vous qui nous avez fait découvrir à l'antenne cette exposition hors norme. Enfin, je dis exposition, mais certains parlent d'OVNI, voire pour les moins enthousiastes, d'arnaque. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu que vous nous racontiez les coulisses pour qu'on comprenne pourquoi ça déchaîne autant de passion. Déjà, Diane, c'est quoi l'idée ? C'est se replonger au cœur de l'univers de l'Union soviétique des années 30 pour mieux dénoncer le totalitarisme ? On va planter le décor.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est d'abord une expérience de cinéma qui nous plonge en effet dans cette ambiance-là de l'ère soviétique. Alors, ça devait se passer au Théâtre du Châtelet, au Théâtre de la Ville, qui sont en ce moment en travaux. Sauf que pour l'instant, personne ne peut entrer au Châtelet. En partie redécoré aux couleurs soviétiques, hein, des loges, des tentures tout en rouge, effigie de Lénine, car la commission de sécurité de la préfecture n'a pas donné encore son feu vert. En revanche, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au Théâtre de la Ville, c'est là que tout se passe. Et c'est vrai que là, on bascule en effet dans un autre monde, étrange hein, quand même. D'ailleurs, vous devez laisser votre portable à l'entrée, vous êtes coupé du monde, avec une musique hypnotique, hein, des personnages en silicone de l'ère soviétique, plus vrais que nature, nous surprennent au détour d'un couloir. On a l'impression qu'ils sont vivants et en fait non, on s'aperçoit que ce sont des statuettes, donc c'est assez troublant.
Et on voit principalement donc des films.
Oui, absolument.
Et qui a tourné ces films et pour nous montrer quoi ?
Des films principalement tournés en Ukraine. Ça a été tourné par un cinéaste russe, Ilya Krasnovsky, c'est son nom, il a une quarantaine d'années.
C'est lui qui est derrière tout ça ?
Absolument.
Même si vous ne l'avez pas rencontré ?
Non, ça fait 2-3 mois qu'il vit entre le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville, il est invisible. C'est l'homme invisible, mais qui tire toutes les
ficelles.
Et vous
avez demandé pourtant.
Ah oui, absolument. J'ai demandé, mais non. Il ne reçoit personne. Donc il nous joue le gourou, enfin le totalitaire. Bon. Le, voilà.
Et donc il a filmé quoi en Ukraine ?
Alors, il est allé filmer la vie d'un physicien russe prix Nobel en 62 qui s'appelle Lev Landau. D'où le nom de DAO, c'est la contraction de Landau. Il est allé reconstituer l'institut scientifique que dirigeait ce Lev Landau à Moscou dans les années 50-60. Et
donc il a demandé. Il y a 400 personnes qui sont prêtées à ce jeu, entre guillemets.
Absolument, il a demandé à 400 volontaires. volontaires, principalement des familles de scientifiques, de s'enfermer avec femmes et enfants dans cet institut pendant 2 ans et demi dans les conditions de l'ère soviétique, dans les costumes et les décors de l'époque. Et il les a filmés. Écoutez la productrice de Dao, Martine Danglejean.
Ce qu'il y a à créer dans l'Institut, c'est vraiment l'idée de regarder un microcosme, un système avec des règles assez sévères pour voir comment se débrouille la nature humaine dans un système comme ça. Donc c'est le système qu'il connaît parce qu'il est, évidemment russe, donc il a hérité de cette expérience du système soviétique, mais ça aurait pu se passer dans n'importe quel système.
Alors, le cinéaste a filmé tous ces gens un peu comme dans Love Story. Enfin, moi, ça m'a fait penser à Love Story, si vous voulez. Alors, ça donne des scènes quand même assez dérangeantes. Il y a des images de sexe. Je sais qu'il y a des images qui peuvent heurter, qui sont sujets à polémique. Après, c'est très beau sur le plan esthétique. Enfin, moi, personnellement, ça dure plus de 2 heures. On peut s'ennuyer. Il y a des plans, par exemple, 40 minutes de balayeurs, de ceux qui chassent la neige dans l'institut. Enfin,
effectivement.
Voyez, voilà, on est en Union soviétique. Enfin, voyez.
Voilà, et pour être bien dans l'ambiance, il faut demander un visa même pour entrer.
Exactement. Alors, on n'entre pas comme ça, en effet, dans Dao. Hein, attention. Vous avez une guérite en ce moment, place du Châtelet. C'est le Visa Center. Vous venez récupérer votre visa sous le regard glaçant d'un ancien membre du KGB. Évidemment, c'est un personnage en silicone. Mais ça fait son effet, ça vous donne froid dans le dos, hein, ce regard inquisiteur, on a l'impression que c'est un être vivant. Il y a 3 visas possibles, l'un pour 6 heures, ça coûte 35 euros. Et un visa illimité, 150 euros, qui vous permet de vivre l'expérience pendant les 2 semaines qui restent.
Et vous m'avez dit, il y a des lits si on veut dormir sur place.
Oui, absolument.
Alors, pour avoir ce visa, il faut répondre à un long questionnaire.
Très personnel, intime, moi je dirais intrusif. Écoutez Xavier, l'un des membres de l'équipe d'AO, c'est un peu comme une armée de l'ombre.
Quel est votre courant politique, quelles sont vos pratiques sexuelles, voilà, c'est très 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 personnel.
Et si on n'accepte pas de répondre au questionnaire ?
Ah mais il faut répondre, on n'a pas le choix, sinon pas de visa, c'est simple.
D'accord, alors donc on a bien compris Yann, ce que veut le concepteur de Dao, c'est nous faire éprouver ce que c'était de vivre dans ce monde totalitaire de l'ère stalinienne, de recueillir aussi nos impressions, et tout ça dans quel but ? On va écouter justement encore Xavier.
C'est de dénoncer les conditions de vie d'un régime totalitaire. On vit une époque où il y a une montée du nationalisme et du populisme un peu partout dans le monde. Dao tombe à pic. On est pile poil dans un moment où on a besoin de se rendre compte des conditions de vie d'un régime totalitaire. Ces violences qui sont montrées, qui sont psychologiques et physiques, sont justement là pour éveiller un peu les consciences. Quand on sort d'un film, on est très perturbé, on a plein de questions.
Et d'ailleurs, quand on sort de ces projections, eh bien, ce qu'ils appellent alors des chamans, des psys, moi je ne sais pas qui exactement, nous attendent dans des cabines pour écouter nos impressions, répondre à nos questions. Alors pour certains, c'est un véritable échange. Hein, et dans le cas de Clément, eh bien, ce fut un interrogatoire et il confirme qu'il a été filmé.
C'est un peu bizarre parce que c'est un entretien intime. On est dans une petite cabine et on nous dit qu'il y a quand même une caméra qui nous filme. On nous dit qu'on peut supprimer ou garder le truc. À la fin, on nous pose la question. Moi, j'ai choisi de garder. Et à partir de là, on m'a proposé de le revoir. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire.
Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ça pose quand même une vraie question, Diane, que ça fasse polémique. Parce qu'il y a les questions, vous me disiez à l'instant, très intrusives. Ça peut être quoi, par exemple,
Ça peut être, par exemple, est-ce que dans une relation sentimentale, vous avez eu le sentiment d'avoir été utilisé ou est-ce que vous avez été abusé sexuellement quand vous étiez enfant? Bon. Enfin, des choses quand même.
Ça fait beaucoup de données. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, justement, ces données, entre ce qui est filmé et ce qu'on a répondu?
Alors, elles seront versées, en effet, dans les archives de Dao. Hein, et Martine Danglejean, je lui ai posé la question. Écoutez sa réponse.
On se filme soi-même, si on veut, dans les cabines, pendant les conversations. C'est ce qu'on appelle le DaoPod. Évidemment, les vidéos appartiennent à la personne en question et ils en font ce qu'ils veulent.
Parce que vous dites l'expérience continue, ce n'est que le début, là.
Parce que aussi, il faut savoir qu'après Paris, nous irons à Londres, et retournerons peut-être à Berlin cette fois-ci avec un succès. Et donc, Dao voyagera à travers le monde, différent à chaque fois, et qui deviendra cette espèce d'archive humaine. Donc, l'expérience sera perpétuelle.
Oui, alors ça tourne en boucle, puisqu'on alimente nous-mêmes, comme visiteurs, finalement, cette expérience. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on est oppressé par cet univers stalinien et comment le public ressort de cette immersion ?
Alors, c'est vrai que c'est assez oppressant. Les gens sont assez déstabilisés. Certains sortent un peu hagards. Ils ne savent même plus combien de temps ils ont passé au théâtre de la ville. Écoutez ce public.
Comme ils m'ont pris mon téléphone portable, je crois que je suis arrivé hier. Non, j'ai passé peut-être 4 heures au moins. C'est une expérience. C'est comme si, effectivement, on basculait dans un autre monde.
Ça nous transporte dans un truc un peu étrange, un univers un peu étrange.
Et vous, Diane, quelle impression ?
Je vous le disais, c'est assez oppressant. Moi, j'ai été très sensible à l'esthétique des films. C'est en version originale, donc c'est particulier. Alors, on nous donne un écouteur et là, on entend la voix d'Isabelle Adjani, en plus, qui fait tous les personnages. Elle fait les hommes, les femmes, sur un ton complètement monocorde. Hein. C'est pas du tout joué.
Mais est-ce qu'il y a autre chose à voir à part ces films ?
Alors, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire pas grand-chose d'autre que quelques performances. On tombe sur des chants traditionnels de femmes, donc de l'ère soviétique, hein, toujours. Et c'est des acteurs hein, qui jouent, là. Et puis, alors, il y a ce qu'ils appellent le shop. Alors ça, c'est assez amusant. On a des conserves soviétiques, des produits soviétiques. Vous avez même des couverts estampillés de la faucille et du marteau. Ça, c'est vrai que c'est assez marrant.
Et vous êtes reparti avec quoi, vous, Diane ?
Alors moi, je suis reparti avec une boîte de harengs qu'on peut acheter dans ce shop.
Alors, je vais terminer juste avec ça en mettant un peu les pieds dans le plat. Je vous lis juste un tweet. Hein. Dao, l'immersion en URSS est totale. On fait la queue pendant des heures pour se rendre compte qu'il n'y a rien. Voilà ce qu'on a pu dire sur les réseaux sociaux.
Ben, c'est vrai que
parce que tout ne fonctionne pas.
Oui, non, tout ne fonctionne pas. Il y a un côté un peu coquille vide. C'est vrai que dans le fond, c'est surtout les films. Alors on se dit tout ça pour ça. Bon, ouais. Mais non, il y a quand même la reconstitution de cet univers soviétique. Et voilà. Et effectivement, les daophones, enfin, c'est-à-dire c'est les téléphones qui devaient nous indiquer, comme dans un univers soviétique avec un ancien membre du KGB qui devait nous ordonner de voir tel ou tel film dans telle salle. Et effectivement, de nous faire perdre nos repères complètement. Je crois que c'est vraiment ça l'idée.
Ben, ça ne marche pas.
De déstabiliser. Non, parce que là, du coup, on est assez libre.
Voilà, alors, finalement, donc en fait, évidemment, dans un monde totalitaire où on retrouve une certaine liberté quand même.
Absolument.
Voilà. Merci beaucoup Diane Chénouda. On le rappelle, Dao, c'est jusqu'au 17 février entre normalement le Théâtre du Châtelet, c'est pas encore le cas pour l'instant, le Théâtre de la Ville et le Centre Georges Pompidou. À vivre ou pas, on laisse le choix à nos auditeurs. C'est pour ça que justement je vous avais invité pour nous faire découvrir les coulisses de ce monde très étrange. Merci Diane.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Stéphane Place, Virginie Salmen, Martin Fenot, Chloé Triomphe, Diane Chénouda et Anne-Laure Jumet. Un grand merci aussi à Capucine Patouillet pour la coordination et à Kevin Ousty pour la réalisation. Demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde. Ce sera avec Sophie Larmoyer.
Merci Fabienne Lemoyle.